Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous proposons de partager avec vous le plaisir d'une lecture du roman « Profane » de Jeanne Benhamer, paru en janvier 2013 aux éditions Actes Sud et qui obtint le Grand Prix RTL du livre. Lors d'un entretien avec ses lecteurs, Jeanne Benhamer précisait que la rencontre avec un homme âgé prénommé Oscar l'avait invité à construire ce récit. La détermination de cet homme à garder son libre arbitre dans les conditions d'existence de son grand âge ont fait naître le personnage romanesque d'Octave Lassalle. Quant au titre, profane, il trouve sa justification dans le premier extrait du journal d'Octave. Un profane a aussi le droit de douter. J'ai besoin d'autres êtres humains, comme moi, doutant, s'égarant, pour m'approcher de ce que c'est que la vie. Octave Lassalle, nonagénaire solitaire, organise la fin de ses jours en embauchant 4 personnes qui se relaieront à son domicile afin d'effectuer des tâches particulières. Ce faisant, loin de figer des rituels qui préfigureraient la mort, ils redynamisent leur existence au fur et à mesure de cette vie à 5 qui n'est cependant pas communautaire. Tour à tour interviennent Marc Mazzetti, Yolande Grange, Hélène Avel et Béatrice Benoît. Est-ce parce qu'Olivier Lassalle est un ancien chirurgien qu'il a le don de disséquer ce que les interactions produisent sur lui et sur chacun d'eux? C'est ainsi qu'il pourra aller au cœur du passé, des sentiments et des émois présents et enfuis. Écoutons la présentation de son projet.
Ils sont là, derrière la porte. Il ne faut pas que je rate mon entrée. Maintenant que je les ai trouvés tous les 4, que je les ai rassemblés, il va falloir que je les réunisse. Réunir, ce n'est pas juste faire asseoir des gens dans la même pièce un jour. C'est plus subtil. Il faut qu'entre eux se tisse quelque chose de fort. Autour de moi, mais en dehors de moi. Moi qui n'ai jamais eu le don de réunir qui que ce soit, ni famille, ni amis. À peine mon équipe à la clinique, parce qu'ils y mettaient du leur, je leur en savais gré. Ce n'est pas la même affaire dans une clinique, les choses se font parce que sinon c'est la vie qui part. Ce n'est pas autour de moi qu'ils étaient réunis, c'était contre la mort. Et ça, c'est fort. Là, j'ai su tenir ma place. J'ai 90 ans. J'ai à nouveau besoin d'une équipe. Il faut que ces 4-là, si différents soient-ils, se tiennent. Pour mon temps à venir, je m'embarque pour la partie de ma vie la plus précieuse, celle où chaque instant compte, vraiment. Et j'ai décidé de ne rien lâcher, rien. Les 4, là, derrière la porte, je les ai choisis avec soin, tant que ma conscience est aiguë. Pas question qu'on me colle n'importe qui pour s'occuper de ma carcasse quand il sera trop tard pour choisir. J'ai encore toutes mes facultés intellectuelles et physiques, même si le corps fatigue trop vite, regimbe et pousse trop la douleur dans les articulations. Je n'ai pas besoin d'eux aujourd'hui, mais j'ai toujours su anticiper. Pour mes 90 ans, je m'offre une équipe pour la vie. Une drôle d'équipe. Ces quatre-là, ils me vont. Du mouvement qui n'attend que le déclic. Ils en ont, et du fort. Je sais flairer ça. Entre eux et moi, ça passe.
J'ai voulu être seule pour les recevoir, comme j'ai été seule pour les choisir. Mon cher notaire a proposé de m'assister. Il tient à protéger mes intérêts, mais je crois surtout que c'est sa curiosité qui est avivée. J'ai refusé, bien sûr. Je suis le maître de maison et j'entends le rester. Je compte aussi sur elle, la maison, pour m'aider à les réunir. Il y a encore un peu de l'esprit de Claire dans ses murs. C'est bien. Et s'il y a un loup dans cette bergerie, depuis longtemps, c'est moi. J'ai poussé la porte. Trois femmes dans mon grand salon, ça faisait longtemps. Elles ne m'ont pas entendue, je n'ai pas pris ma canne. Je profite du moment, suspendue, pour les contempler. La petite Béatrice, assise, la tête tournée vers le jardin, les cheveux relevés, la nuque droite. Yolande, debout, les mains appuyées fermes au dossier d'une chaise, bras tendus, le regard au sol. Et Hélène, accoudée à la cheminée, comme un oiseau sur un pied, fine, à peine posée. Aucune ne parle, et cela renforce mon sentiment d'être face à un tableau. Le quatrième, comme s'il avait senti ma présence, est entré par la porte-fenêtre du jardin. Son arrivée met tout en mouvement, puisqu'il s'avance vers moi, elle me voit. Béatrice s'est levée, a tiré sur sa robe, un geste qui me fait sourire. Comme si, à cet âge, on avait besoin de cacher ses jambes. J'appellerai chacun des quatre monsieur, madame ou mademoiselle. Ils feront de même. Leur prénom, c'est pour mon jardin secret. Leur visage, leur corps m'accompagnent déjà depuis un moment. Tout seul ici, je me suis familiarisée avec eux. J'ai pensé tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Je les ai imaginés. J'ai laissé peu à peu se creuser leur sillon dans ma vie. Leur prénom, c'est pour moi tout seul. J'aime l'intime, pas le familier. Ils m'appelleront monsieur. C'est dans la bonne distance qu'on peut aller loin, et la bonne distance, elle commence avec ces petits riens. J'y tiens. Je joue assez serré pour être vigilant. J'accepte que chacun d'eux entre et sorte de chez moi à sa guise, avec sa propre clé, quelle que soit l'heure. Il faut savoir mettre les barrières au bon endroit. Moi, ce n'est pas dans le trou de la serrure que je les loge, c'est dans la bouche. Ils se sont assis, tous les quatre. Hélène Avel sourit. Juste les lèvres, pas le visage tout entier. Ce drôle de sourire qui flotte pour personne, qui m'a émue chez elle d'emblée. Un sourire qui m'invite à la parole, je ne sais pourquoi.
Tout d'abord, je vous remercie d'avoir un jour répondu à mon annonce. J'ai conscience qu'elle pouvait poser question. Vous le savez, j'ai pris mon temps pour choisir chacun de vous. Vous avez peut-être trouvé ce temps long, mais j'aime prendre mon temps. Je suis heureux de vous voir tous les quatre ensemble ici en ma présence. Ce sera sans doute la seule fois, puisque chacun de vous viendra désormais seul, pour une partie de la journée ou pour la nuit. Cependant, comme vous aurez chacun une clé et une chambre, vous serez peut-être amené à vous croiser dans la maison. Vous choisirez vos chambres tout à l'heure. Elles sont au deuxième étage. J'ai réservé le premier à mes jambes moins alertes depuis quelques années.
Leur attention aiguise la mienne. Yolande, la bouche légèrement ouverte, a l'air de l'élève laborieuse qui ne veut pas perdre un mot du maître. Béatrice a retrouvé cette posture que je lui ai vue dès notre premier entretien, tendue, buste étirée. Marc a allongé les jambes. Je vois les semelles de ses chaussures souples, confortables, silencieuses. Ses bras reposent sur les accoudoirs. Il a croisé les mains sur sa poitrine et Hélène écoute, mais ses yeux sont sur le tableau, derrière moi.
Vous serez sans doute amené, le plus tard possible, j'espère, à vous passer le relais pour un traitement ou un autre que je ne serai peut-être plus en mesure de contrôler moi-même. Il est rare qu'on y échappe avec le grand âge. Il vous faudra alors communiquer les uns avec les autres. J'ai donc pensé qu'il serait bon que vous vous connaissiez déjà. Je ne vais pas vous demander de vous présenter aux autres. Nous ne sommes pas dans un séminaire d'entreprise. Je le ferai moi-même, simplement, en suivant votre ordre d'arrivée quotidien dans la maison.
Ils ne se regardent pas, mais pourtant quelque chose est en train de circuler de l'un à l'autre. C'est mystérieux, les premiers liens. C'est ma voix qui les relie les uns aux autres. J'en suis conscient et cela me cause une sorte de joie, difficile à qualifier. Je les informe que ma journée commencera avec Marc Mazzetti, l'homme du matin. Dès 7 heures, il s'occupera de moi quand je ne pourrai plus le faire aussi minutieusement qu'il convient. Pour le moment, ce sera rasage à l'ancienne, un plaisir que j'avais oublié. Et l'entretien du jardin. Les essences rares demandent des soins avertis et elles sont nombreuses dans ce jardin. J'y tiens énormément. Dans le silence qui suit mon petit laïus, il glisse.
Le jardin est extraordinaire, monsieur, mais j'aurais sûrement besoin d'aide au début. Je vous avais dit que j'y ne connaissais pas grand-chose.
Je vous aiderai. Nous y ferons une promenade quotidienne, puisque le temps est doux, et je vous parlerai des plantes. J'ai aussi un herbier, avec chaque plante répertoriée. Il a été fait, en son temps, avec grand soin.
Je pourrais peut-être l'emporter chez moi, pour me familiariser avec tout ça.
Ah ! On ne peut pas ravaler ces paroles. Je devrais le savoir pourtant. Il y a des zones intouchables. L'idée de la perte de l'herbier m'est insupportable. Une simple tâche me serait difficile à accepter. Les mains de Marc Mazzetti sont fortes, longues, les ongles nets, heureusement.
Excusez-moi, monsieur, mais cet herbier ne sort pas de la maison. Je ne doute pas de votre soin, mais j'y suis attaché d'une façon très personnelle. Vous pourrez le consulter ici tant que vous voudrez.
Comme vous voulez.
Il sourit, ne se force pas, ça va. Il accepte la donne. J'aime sa voix basse, ferme, une voix apaisante. C'est rare. Je poursuis.
Madame Hélène Avel viendra me rejoindre à la maison de 14h à 18h. Sa tâche sera plus éclectique. Madame est peintre, et elle vient ici réaliser une commande que je lui ai passée.
Le mot « peintre » a eu un effet immédiat. Tous les regards ont convergé vers elle, et elle a eu l'air embarrassée. J'ai enchaîné très vite.
Madame Avel est aussi une excellente lectrice. Elle me fera la lecture de la presse. Je tiens à connaître l'état du monde dans lequel je suis plongé depuis si longtemps. Une vanité, sans doute, pour un homme qui n'y joue plus sa part, mais bon. Pas de questions particulières, madame ?
Tout le temps où j'ai parlé d'elle, elle a discrètement frotté une cheville contre l'autre, comme si les lanières de ses sandales la gênaient.
Très bien. Madame Yolande Grange prendra le relais jusqu'à 22h et préparera mon dîner. Madame Grange aura aussi en charge l'éclaircissement des placards de la maison, du grenier et de la cave. J'ai besoin qu'on fasse du net dans cette maison. Du tri.
Yolande Grange s'est lancée, la voix rauque, tout le corps projeté en avant par le son.
Monsieur, je préparerai le repas du soir, mais qui fera les courses ?
Madame le maire s'en chargera. Elle connaît mes goûts depuis longtemps, et elle décide du menu. Elle a carte blanche de ce côté-là.
Elle hoche la tête. Je ne sais pas si elle est contente d'être débarrassée d'une tâche, ou vexée d'être juste l'exécutante. Difficile de se rendre compte. Sa voix, un peu rauque, a empli la pièce d'un coup. Et quand elle se tait, ça fait une étrange sensation. Du vide, mais ça vibre. Je sens encore cette vibration dans la pièce quand je reprends.
Enfin, Mademoiselle Béatrice Benoît viendra pour la nuit. Quelqu'un doit être présent, à demeure, comme on dit. La nuit aussi. Mademoiselle Benoît fait des études d'infirmière. J'espère ne pas lui offrir trop de travaux pratiques. Elle repartira à 7h vers sa journée.
Marc Mazzetti a jeté un œil vers Béatrice et lui sourit. Elle ne s'en aperçoit pas. Sourcils froncés, une ride nette au milieu du front qui se creuse.
S'il vous plaît, monsieur, j'ai besoin d'une précision. Si je dors et que vous avez un malaise, comment pourrais-je vous venir en aide ?
Quand elle me parle, elle me regarde droit dans les yeux. Les autres n'existent plus. Son regard m'a frappé dès le premier entretien. J'ai pensé à une grotte, ou à un fond sous-marin, ou à un sous-bois, des endroits ombreux où on s'aventure avec la sensation d'être entouré, protégé et en même temps avec le sentiment d'un risque inexplicable.
J'utiliserai ce qu'on appelle aujourd'hui présence verte. Vous savez, votre chambre sera équipée d'une sonorisation et moi j'aurai un bracelet avec une touche sur laquelle je pourrai appuyer si ça va mal. Vous entendrez une sonnerie et nous pourrons même communiquer aussitôt.
Elle dit très bien, mais la ride sur son front ne disparaît pas. Marc Mazzetti lance
« Vous avez pensé à tout ?»«
J'anticipe, monsieur, j'anticipe. »«
J'anticipe. Je vais au-devant de la vie, alors que c'est le passé qui me tient. Et soudain, le souvenir de Claire entrant dans cette pièce, un jour, avec un rire éclatant, me revient. J'étais en pleine discussion avec des confrères venus des quatre coins de France en congrès dans la ville. » Nous nous étions arrêtés net. C'était la vie qui entrait dans un souffle lumineux. Du haut de ses 4 ans, elle nous avait tous regardés et son rire avait repris de plus belle. Je suis sûre que c'est de nous avoir un instant ravis, littéralement, à notre grave conversation, qui avait donné à son rire, ce jour-là, cette force magnifique, cet éclat de vent de soleil de vie. Ah, Claire, Claire, toi seule as eu ce pouvoir de m'arracher à tout. Comme tu as manqué.
Pendant que vous choisirez vos chambres là-haut, je vais chercher quelques papiers nécessaires à notre engagement réciproque. Mon notaire a tout préparé. Je vous retrouve au salon, en bas, tout à l'heure.
Marc Mazetti a pris la chambre la plus petite, un lit, une table de bois. S'il connaissait le tableau, il penserait à la chambre de Van Gogh. Yolande demande.
Vous êtes sûre que vous voulez celle-là? Parce que moi, vous savez, ça m'est égal. J'ai assez à faire chez moi. En dehors des heures de boulot, j'ai vraiment pas le temps de venir me reposer ici. Alors la chambre, je m'en fiche. Je viens pas ici en villégiature.
Le mot dans sa bouche étonne. Elle a volontairement traîné sur la dernière syllabe, ironique. Marc rit.
Cette chambre, c'est parfait pour moi, madame.
Oh, appelez-moi Yolande, on ne va pas faire de chichi entre nous.
Il aime bien cette femme, sa vigueur toute ramassée dans le corps ferme, charnu. Il pense, elle aurait fait une bonne guerrière. Il lui dit.
D'accord, Yolande. Moi, Yolande, j'aime bien les endroits petits, simples, sans chichi, comme vous dites. Et puis, regardez, la fenêtre ouvre à l'est, le soleil du matin.
Parce que vous comptez vraiment dormir ici, vous?
Marc ne répond pas. L'idée de dormir dans la chambre lui plaît, il ne sait pas pourquoi. Un ailleurs possible pour ses nuits sans sommeil, c'est une aubaine. Yolande regarde Béatrice qui vient d'entrer dans la troisième pièce. Restée seule dans le couloir, elle jette un œil dans celle qui reste et lance
« Eh bien, pour moi ce sera celle-là et on n'en parle plus !»
Elle ouvre et ferme la fenêtre machinalement comme pour s'assurer que la clenche fonctionne bien et ressort aussitôt prête à descendre. Béatrice a refermé doucement la porte de sa chambre. Maintenant, elle a besoin de la solitude pour retrouver un peu de fermeté, du calme. C'est le grand lit qui l'a attirée dans cette chambre, plus exactement le tissu qui le recouvre. Venue d'où? Elle se dit le Tibet, peut-être. La main posée sur le tissu, elle se dit c'est ma chambre. Elle ignore que juste derrière la cloison, Hélène aussi s'est assise sur le lit. Hélène a laissé son regard errer dans le jardin. En bas, sous sa fenêtre, se perdre dans les feuilles, les fleurs. Elle est revenue lentement au cœur de la chambre. Elle a observé la lumière captée par le jaune des murs, diffractée. Les chambres sont carrées, toutes les quatre. Elle l'a remarqué tout de suite. C'est cela qui donne cette sensation rassurante. Elle pense à certaines compositions de Bach. Elle pense que chaque carré contient un cercle. Elle sent le cercle autour d'elle. Et si c'est bien? Elle pourrait rester à contempler encore et encore s'il ne fallait pas rejoindre les autres, descendre. Elle ne bougera que lorsque les trois autres auront quitté l'étage. Elle entend le pas énergique de Yolande sur le parquet du couloir.
Toute seule, en bas, dans le grand salon, Yolande ne sait pas quoi faire. Elle, c'est plutôt les cuisines. Elle ne pose les yeux ni sur les tableaux, ni sur les meubles. Elle fixe le parquet. Depuis combien de temps Octave Lassalle est-il là à la regarder? De sa voix profonde qui articule si bien chaque mot, il demande.
« Vous avez fait votre choix, madame ?»
Elle a relevé brusquement la tête. Il a vu les larmes. Dans sa vie, il en a vu couler dans son cabinet, à la clinique. Il ne s'est jamais détourné. Il a appris à ne plus être un regard, juste être là, ne pas ajouter au chagrin la honte d'être regardé. Yolande a eu le temps d'essuyer sa joue, de s'adresser silencieusement à un
« Mais qu'est-ce qui te prend, ma fille ?»
qui l'a replantée dans le grand salon d'une maison où elle va travailler tous les jours. Point. Le vieux bonhomme sourit. Il se dit qu'il n'a rien dû voir, tant mieux. Il enchaîne.
Votre choix a été rapide.
Oh, vous savez, moi les chambres, je prends celles qui restent. Je ne vais pas m'en servir de toute façon. Je viens ici pour travailler, pas pour me reposer, pas vrai?
On ne sait jamais, madame. Enfin, si l'envie vous en prenait, en dehors de vos heures de service aussi, vous savez que vous avez la jouissance de ce lieu. Et votre chambre, donc, celle qui reste, c'est ?
Celle qui donne sur le côté où il y a une petite maison en bois, une cabane de jardin ou quelque chose comme ça.
Octave n'a plus jamais rouvert la porte de bois. Le cadenas doit être mangé par la rouille. Il revoit, après tant d'années, le fouillis de ce qu'elle appelait sa maison de poupée. Ça vibre encore, la douleur, si loin. Yolande Grange le regarde et c'est à lui cette fois de se reprendre.
« Puisque vous êtes prête, nous allons signer notre contrat, si vous le voulez bien. Tenez, le voici. Vous pouvez en relire les termes. »«
Pas la peine, j'ai confiance. »«
Je sais, mais c'est une bonne habitude de lire les contrats avant de les signer, quoi qu'il en soit. Voyez-vous, nous allons être liés ensemble jusqu'au bout. »«
Jusqu'au bout ?» Il a dit ça pendant l'entretien d'embauche. Jusqu'au bout. Ça fait bizarre. Le bout de quoi ? De sa vie à lui ? Mais il a encore l'air en pleine forme, cet homme-là, pour son âge. C'est la richesse qui conserve comme ça ?
Asseyez-vous. Vous serez mieux pour lire.
Yolande Grange s'assoit, jambes parallèles, pieds posés bien à plat. Il pense très bien. Elle ne coupe pas la circulation du sang. Et il s'étonne de la vivacité tenace de ses vieux réflexes. Ça ne vous quitte donc jamais un métier ? Elle a parcouru les deux feuilles, s'est contentée de vérifier l'essentiel, le tarif horaire. C'est bien ce qu'il avait annoncé. Il est réglo. L'argent, il l'a, pas de doute.
Cette femme est vraiment surprenante, pense-t-il. Quelle vitalité. Je reconnais chaque fenêtre, à la lourdeur du volet, à sa résistance, à son grincement. C'est ma maison. C'était celle de Claire et d'Anna, ma fille, ma femme. Des possessifs qui ne veulent plus rien dire. Et une fois Claire morte, cette impossibilité qu'elle soit notre fille, comme si la mort l'avait rendue intacte au ventre de sa mère. Anna repliée sur sa fille morte, plus jamais à naître, plus jamais. Un temps où nous n'avons été littéralement plus rien, on dit anéanti, le seul temps du partage. La mort de Claire s'est inscrite dans mes chairs pendant ce temps-là. Puis le temps, terrible, où l'existence est revenue, douloureuse comme quand le sang se remet à circuler dans une chair trop longtemps comprimée. Moi, je ne montrais rien, par habitude ou par nature, je ne sais pas, et je regardais impuissant Anna, un oiseau fou qui se cognait et se cognait encore au mur, à l'air, à moi, envolée un jour, sinon morte, repartie vers son Canada, sa famille repartit vivre dans sa ville près des lacs et des forêts. Que pouvais-je faire ? La retenir, ici, dans la maison auprès de moi, sans Claire ? Je savais que c'était la garder trop près de la mort. Je sens ces choses-là. C'est le chasseur en moi plus que le chirurgien qui sent. J'ai travaillé, tatoué à l'intérieur par la mort, faisant les gestes. Mais opérer, non. Sauver qui que ce soit d'autre que Claire en opérant, impossible. Je posais des diagnostics, je dirigeais mon équipe, je n'opérais plus. Pendant des semaines et des semaines autour de moi, on a accepté, sans aucune question. Jusqu'au jour où la grande vague s'est levée pour une jeune femme qui allait mourir, elle aussi, et qui avait une enfant à naître dans le ventre, la vie qui palpitait à l'intérieur, 7 mois, et elle, dont le cœur ne tenait plus. Quelque chose s'est réveillé, un appel venu d'où ? la douleur battant dans mon sang à moi, pulsant. Et soudain, j'étais debout. Il faut opérer, maintenant, sinon on les perd, la mère et l'enfant. Comme tout cela est encore présent, je revois tout. Non, il n'y a pas eu de miracle. Juste le temps qui était passé, je pouvais à nouveau. Et cet acharnement que je ne comprends toujours pas à sauver ce qui, de toute façon, s'anéantira. J'étais repris. Maintenant aussi, je mets tout en place pour continuer à sauver du vivant, mais ma vie à moi. Et je ne sais toujours pas pourquoi, mais je le fais. J'ai retrouvé toute la rigueur, la passion d'être au service de quelque chose qui me dépasse et que je ne nomme toujours pas, mais qui me tient. Toujours. Chez les quatre, c'est cela que j'ai flairé. C'est cela qu'ils ont en commun avec moi. Je ne connais pas leur histoire. Je me suis fiée à l'intuition qui m'a toujours guidée, qui me faisait accomplir le geste sûr quand j'opérais. La technique ne suffit pas. Nécessaire, pas suffisante. Il faut sentir au-delà, comme si chaque geste était pris dans un geste bien plus vaste, relié au-delà du temps aux gestes des hommes, ce qu'ils ont toujours fait avec des outils plus ou moins sophistiqués, ou sans, à main nue, pour retenir le vivant parmi les vivants. Dans ces moments-là, j'appartenais pleinement à l'espèce humaine. J'y remplissais ma tâche, et je me sentais relié à tous ceux d'avant moi et à tous ceux d'après. Un sentiment d'immensité. Jamais rien d'autre ne m'a fait éprouver cela. Ce soir, je sens qu'avec ces quatre-là, je ne me suis pas trompée. La maison, elle-même, le sent. Elle a été ranimée par leur voix, leurs pas. Elle vibre de quelque chose qui s'était enfoui. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si intense. Déjà.
Il n'ira pas dormir dans sa chambre cette nuit. Il veut rester ici, sur le sofa de velours rouge, celui de toutes ses veillées. Cette nuit, quelque chose remonte du lointain de son être. Il ne dort pas. Il aimerait poser sa tête sur le sein d'une femme. Toutes les années de solitude l'ont laissé sur la route blanche, et ils ne sont pas trop de quatre pour avancer avec lui. Il pense à l'étymologie du mot profane, celui qui est devant le temple. Il est ce profane, ils sont ces profanes. Au cœur de chacune de leurs vies, le temple, vif, le seul sacré qu'ils connaissent. Cette vie qui vibre et échappe à chaque pas. C'est à ça, et seulement à ça, qu'il s'est voué toute son existence. Aujourd'hui, il a besoin qu'on l'aide à tenir ce cap-là. Parce que la vie dans le corps n'est plus aussi fluide, parce que les artères ne battent plus au même rythme, parce que les articulations se grippent. Mais ce n'est pas tout. Bien sûr que ce n'est pas tout. C'est le désir, c'est l'élan qui s'amenuise. Et ça, il le sait trop, il faut combattre. Anna avait choisi la religion comme seule voie possible, lui non. Et pourtant, avancer, est-ce qu'on avance? Les religions n'ont jamais pu le guider. Trop de réponses. Il n'a jamais cherché de réponses. Même quand les questions viennent, elles reviennent. Il veut juste devenir de son vivant la vraie question, pour lui-même, la question juste. La liberté est terrible, si petite pour chacun. La si petite liberté humaine et ce désir parfois de l'enfoncer sous la terre parce que trop, si petite mais déjà trop, on a peur. On voudrait vite des réponses aux questions, à la seule question. Moi aussi j'ai peur, moi aussi j'aurais aimé des réponses apaisantes. Et non, même quand Claire est morte, il n'a pas pu se résoudre à enfoncer la question sous la terre d'un coup de talon. Cette liberté-là, à laquelle il a tenu comme Ulysse lié au mât de son navire, c'est cette liberté-là qu'Anna n'a pas pu supporter. Ça l'aurait tuée, elle. Dans la religion, ses rituels et ses mystères ordonnés, Elle a cherché la paix. L'a-t-elle trouvée? Aujourd'hui, il aimerait savoir. Mais Anna est loin. Repartie avec leur enfant, lovée dans son ventre pour toujours.
Nous espérons que cette lecture vous aura donné envie de découvrir l'œuvre dans son entier et qu'alors, peut-être, elle modifiera en vous quelque chose. Jeanne Benhamer dit que c'est le désir de cette transformation qui fait naître en elle la profonde nécessité d'écrire. Elle accorde une grande place à la psychanalyse et dans une rencontre à l'Académie de Créteil en 2005, elle dit « Mon pari est que si je suis transformée, mon texte transformera d'autres lecteurs, puisqu'on est semblables. » Nous remercions Vincent et Claude Michel pour la technique. Cette émission a été préparée par Monique et Anne et lue par Annie, Yvan, Marie, Monique, Philippe et Anne. La musique qui accompagnait cette lecture est celle d'Avishai Cohen.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez